On ne dit pas manger, on ne dit pas bon appétit, on ne dit pas bonjour tout court. Si j'étais un garçon, je saurais exactement quand on fait le baise-main et quand on ne le fait pas, et quand envoyer des fleurs, et on ne commande pas la bouffe, et on est lourd sur rien, et on va toujours bien, et on est très gentil avec les domestiques, et on ne dit pas monsieur au serveur, et on laisse des pourboires, on n'est jamais trop habillé, on n'a jamais honte. Toutes ces manières, ces bonnes manières que je connais par cœur, je les déteste, parce qu'elles sont en moi, incrustées, bien plus que le sang, elles sont plus qu'une langue, elles sont un corps, elles sont mon corps. Constance Debray, ce soir, notre invitée, à l'occasion de la publication de son dernier livre intitulé « Non » avec un M. Et comme chaque soir, nous allons commencer en musique, et ce sera Aurel San, des fêtes de famille.
Eh, rappeur de la famille, il nous ferait-il pas un petit rap ?
Non.
Allez, une chanson. Pose ton flow.
Ok. Ok.
Puisqu'on est tous réunis ici pour chanter les démons de minuit, manger de la mousse de canard sur des blinis, danser sous les stroboscopes de Jiffy, j'ai préparé un petit speech parce que je dois vous avouer un petit détail de ma vie. Je déteste les fêtes de famille. Déjà les soirées où je suis sûr de pas baiser, j'en ai trop fait au lycée. J'ai déjà envisagé des cousines, quitte à risquer le triseau. Mais quand je vois la gueule de Delphine, qui sert à rien à part se plaindre, je comprends pourquoi son mec pourrait préfère danser avec le chien. Si j'ai plus de 30 ans et je suis toujours assis à la table des enfants, c'est pour leur dire de se méfier de Christian quand il a de l'alcool dans le sang. Et parce que j'en peux plus d'entendre les plaques de cul des parents, je crois que papa baiserait maman sur la table si vous trouviez ça marrant. Vincent, t'as le même âge que moi, pourquoi t'es quand même plus vieux? Si vous n'avez pas peur du vide, regardez Muriel dans les yeux. Pardon, mais j'ai passé l'après-midi à gonfler des ballons dans une ambiance d'installation militaire imposée par le daron. Pendant que mon beau-frère récitait des clichés politiques avec passion, me regardait porter des cartons en tripotant ma frangine toutes les 3 secondes. Y'a pile le nombre de gobelets par personne, faut écrire vos noms, parce que tata est le genre de crevarde qui lave les assiettes en carton. Tonton, si tu continues de faire yo-yo avec les doigts, chaque fois que tu passes à côté de moi, tu les utiliseras pour la dernière fois. Je t'en veux toujours pour quand j'étais petit et tu m'as secoué comme une pute. Si tu tenais à tes rétros, pourquoi tu t'es garé derrière le but? En parlant de pute, j'aimerais accueillir la nouvelle femme de Bruno. Si Caro m'écoute plus, c'est qu'elle met au point son prochain ragot. Pardonnez-la, elle serait pas comme ça si son mari la trompait pas. Ou peut-être qu'il la trompe parce qu'elle est comme ça. Je sais pas. Message à tous mes lointains cousins, venez on arrête de faire copain-copain, parce qu'un ancêtre on sait pas qui c'est, est la seule chose qu'on a en commun. Un putain d'ancêtre qui devait brûler des villages et piller des baraques, à peu près à la même époque où papy baisait Jeanne d'Arc. D'ailleurs papy, raconte-nous la fois où t'avais 9 ans et t'as tué Hitler. T'as jamais été un héros, t'étais même pas un bon mytho. Mon héros c'était toi Nico, mais depuis que tu t'es mis avec l'autre colle un peu bonne, t'es juste un vrai beauf comme les autres. Merci Arnaud d'être venu te prendre en photo pour alimenter tes réseaux sociaux, profiter d'être avec quelques prolos pour pouvoir encore plus jouer les bobos. Polo, si tu veux m'impressionner, c'est pas en roulant des joints compliqués, en utilisant beaucoup trop wesh pour un blondinet. Vu que ton père a un problème avec les Arabes, c'est une très belle ironie. Au passage, il a moins de chances de mourir du terrorisme que de l'alcoolisme. J'espère que Tati va bien attacher les mots, parce que son mari va rentrer au radar comme s'il avait une voiture autonome. J'avais plus de choses à vous dire, mais quand je vois vos gueules d'enculés bouffis, j'arrive qu'à me demander s'il y a assez de porcs sur terre pour vous nourrir. J'aimerais finir en disant que peu importe les sourires, la fête au village, il a suffi d'un petit héritage pour qu'on voit vos vrais visages. Mamie, je t'aime. À l'année prochaine.
Aimez-vous dire oui ?
Bien sûr, sinon je n'écrirais pas.
Vous dites oui à quoi alors ?
Ah, je dis oui à ce qui vient, d'abord. je dis oui à la quête. Donc il y a quelque chose qui, dans ce oui, qui relève de l'altérité ou de la fatalité, donc ce qui va tomber, et puis de ce que moi je peux faire, y compris pour contredire, pour tordre le réel et pour opposer quelque chose à la mort, tout simplement.
Vous dites oui à la vie.
Donc, bien sûr.
Depuis tout le temps? Ou est-ce que l'enfance c'était plus compliqué, ce sentiment de vivre?
Non, je crois que ce sont les deux choses ensemble, c'est-à-dire d'une part, sans doute très tôt et d'abord, je pense par mon caractère, le sentiment de la vanité des choses. Voilà, et de, disons, des forces obscures, de l'injustice, de la vie, etc. Enfin, relative, mais réelle. Et un caractère qui fait que j'ai toujours eu envie de m'arracher à ça. De m'arracher aux forces qui vous pousseraient à ne rien faire, comme l'homme qui dort de Pérec. À s'abstenir, à se taire. Et j'ai toujours cru beaucoup que la seule réponse, c'était faire. Alors faire quoi de soi et faire quoi tout court, ça m'a pris du temps de le trouver. Non, je crois que j'ai une forme de vitalité contra mundo, oui.
Dans vos livres, Constance Debré, on comprend assez vite que dans votre enfance, votre propre mère était spectatrice de sa vie. Votre père, ensuite, l'est peut-être devenu par contagion amoureuse avec votre propre mère. Mais vous regardiez cela comment?
Il y avait chez...
Ils se sont retirés d'une forme de vie habituelle à tout le monde.
Ah, c'est sûr. Mais ils étaient, disons, dans une forme de vérité, du conflit en eux-mêmes, du bien et du mal, je crois. Et avec beaucoup d'amour pour nous, donc moi d'abord et ma sœur ensuite qui est née plus tard. Et donc j'ai reçu beaucoup de choses d'eux, en vérité, beaucoup d'amour et beaucoup d'intelligence. Et puis j'ai eu le spectacle de cette vérité, de leur combat, qui les a emportés l'un et l'autre. En tout cas, ma mère c'est effectivement est morte quand j'étais relativement jeune. Mais qu'est-ce qu'il y a à dire? Enfin, qu'est-ce qu'il y a à dire?
Elle est morte de quoi?
Donc pour être plus précis, en effet, mes parents se droguaient. Quand j'étais petite fille, très petite fille, c'était à l'opium. Fumer de l'opium le soir.
Et ça, vous racontez que vous avez compris ça très jeune.
Je l'ai vu, l'opium. Et je l'ai vu, et mes parents, qui étaient...
Ils se cachaient pas?
Non, enfin, m'ont dit ce que c'était une drogue, que c'était interdit, que, voilà, dans toutes les sociétés, il y avait des drogues. Certaines étaient autorisées, comme pas pour des raisons politiques, économiques, comme l'alcool dans nos pays. Et d'autres pas, qui avaient des... Voilà, le mot drogue recouvrait des choses différentes. Et qu'en tout cas, il valait pas mieux ne pas le dire à l'école, qu'il fumait de l'opium. Bon, j'ai compris. Donc déjà, je vois qu'il y a une sorte de décalage. Il y a des choses qui sont vraies qu'on peut pas dire, des choses, voilà. Et toute la période de l'opium, ça va. Je crois pas que c'est une drogue qui les a empêchés de vivre ni de travailler. Mon père a toujours dit que c'était et je crois pas qu'il mentait, que c'est une seule, vraiment, ça l'a permis de travailler, de découvrir des civilisations, des livres, et qu'il a été parfaitement heureux à ce moment-là. Moi, j'en souffrais pas. Enfin, l'organisation familiale n'en souffrait pas. Et puis, à un moment, il n'y avait plus d'opium. C'est la chute du Vietnam a entraîné le fait que ces pays ne produisaient plus d'opium, surtout que l'opium ne passait plus. Et donc, ils sont passés, mais c'est un donc qui va pas de soi, parce qu'il y a des opiomanes qui sont pas passés à l'héroïne. Eux sont passés à l'héroïne. Alors là, ça a été très, très rapide et très brutal. Et là, ça a rien de très heureux, l'héroïne, en tout cas de ce que j'en ai vu et de leur manière de le faire. Je pense que les gens ont... Enfin, on peut avoir des pratiques différentes par constitution ou par caractère de ce qu'on fait de la drogue. En tout cas, eux l'ont... Enfin voilà, ça a été une chute assez rapide, enfin voilà, économique, tout. Enfin, ils Et puis après, il y a tout. Il y a les médicaments, il y a l'alcool. Et ma mère est morte quand j'avais 16 ans d'une rupture d'anévrisme qu'on peut imaginer causée par cette hygiène de vie, disons. Et voilà, et on fait avec. Pour dire que c'est un chagrin, c'est une évidence, mais le chagrin est aussi une expérience particulière parce que ça vous... surtout quand, évidemment, on est une adolescente comme moi, et que perdre sa mère, c'est la plus grande angoisse qui se réalise. Et une fois qu'elle s'est réalisée, on est aussi, d'une certaine manière, sauvé de la peur. Puisque le pire est arrivé, qu'on est finalement encore là, alors on n'a plus de raison d'avoir peur. Il y a une sorte de, je pense aussi, de second souffle en quelque sorte aux orphelins ou semi-orphelins comme je l'ai été. Donc oui, d'une certaine manière, on sait qu'on résiste à des choses. Que tant qu'on n'est pas mort, on n'est pas mort.
Quand avez-vous commencé à écrire? Déjà à ce moment-là?
Non, beaucoup plus tard, mais j'ai, comme beaucoup qui écrivent ou pas, les livres ont toujours eu une grande place dans ma vie, parce que tout simplement, je crois que j'étais aussi quelqu'un d'assez solitaire. Je trouvais dans les livres des choses qui, tout à coup, me paraissaient plus vraies, plus intelligentes, plus proche de mon expérience de la vie que je ne trouvais dans les conversations, mais sans doute aussi par caractère un peu solitaire, voire timide à cette époque, sans doute aussi. Et j'ai écrit plus tard, vers une trentaine d'années, mais je pense que je sentais que j'étais pas. Et après, à un moment, quand je suis devenue avocat pénaliste, et que j'ai découvert cette chose d'une part de la défense et d'autre part de cette autre forme de discours qui est un discours totalement éphémère qui sert quelqu'un d'autre mais qui se perd parce que voilà, il est dans une salle, il y a trois personnes qui l'entendent et puis il n'en reste rien. Mais j'ai trouvé dans cette forme de discours un sens qui, pendant un certain temps, m'a fait penser que je pourrais renoncer à l'écriture, ou je pourrais ne pas avoir un sentiment d'échec si je n'écrivais pas de livre. Voilà. Et puis, ça m'a rattrapée. Et j'en suis très heureuse, évidemment.
Et pourquoi avez-vous quitté le barreau et la robe d'avocat?
Je l'ai quitté pour écrire, point. C'est tout. C'est qu'à un moment, il m'est apparu que j'avais quelque chose à écrire, que j'avais une vague idée de la forme que je voulais que ça prenne, et que tout à coup, cette chose, je l'avais. Et j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai fait plus fait que ça. Et puis voilà. Puis après, je me suis désinscrite et j'ai quitté le barreau. Je crois que c'est essentiellement ça, parce qu'il me semble que, enfin, on pourrait parler des heures des différences entre ces deux mondes, mais parler au-delà d'un tribunal ou d'une cour, parler en mon nom et pas au nom de qui je défendais, me paraît beaucoup plus important. Et la littérature, évidemment, qu'est-ce qu'elle dit par rapport au droit? Elle dit qu'on ne peut pas enfermer un homme dans une qualification. Voilà. Et le droit ne cesse de vouloir enfermer, évidemment, cette complexité, de la réduire, alors que la littérature, elle l'ouvre et il n'y a pas de jugement. Alors ça me paraît plus important, tout simplement. Voilà. Je pense que j'ai toujours eu... Je ne suis pas quelqu'un qui... de l'ordre du plaisir, ou ce que je pense que j'ai toujours voulu faire quelque chose qui avait un sens. Alors qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien. Il y en avait un dans la défense, mais il m'a toujours semblé que la littérature remplissait ou tâchait ou tendait vers une obligation morale beaucoup plus grande.
Je vous propose d'écouter la voix d'Emmanuel Carrère qui va répondre à la question: l'écriture est-elle une tentative de compréhension de soi-même? C'était l'année dernière.
J'espère pas que. Il me semble que dans les livres, malgré tout, ce qui pousse à écrire des livres, c'est à la fois de comprendre un peu mieux ce qui est soi et de comprendre un peu mieux ce qui n'est pas soi. Évidemment, comme ça, eh bien, de ce truc binaire, on couvre à peu près tout le terrain. Il y a soi et pas soi. Alors, moi, j'ai un peu tendance à écrire des livres qui parle de moi, mais j'espère en parlant de moi, essayer de parler des autres et aux autres aussi. J'espère, hein, ça c'est peut-être un vœu pieux, hein, peut-être que je dirais, ben, on m'a quelquefois, voire souvent, accusé de nombrilisme ou de narcissisme, et voilà, je peux difficilement me dérober à ces reproches, mais je pense tout de même que parler de soi avec honnêteté permet de parler aux autres, est un bon chemin pour parler aux autres. Je me souviens, il y a une phrase comme ça qui est très belle de Lévinas qui disait le meilleur chemin pour aller vers soi passe par les autres. Et cette phrase est très belle et très juste, mais elle est totalement réversible. On peut dire tout aussi bien que le meilleur chemin pour aller vers les autres passe par soi, qu'on a besoin de passer par soi, ou en tout cas qu'une certaine catégorie de gens ont besoin de passer par eux-mêmes pour accéder à un rapport à autrui.
Avez-vous l'impression, comme Emmanuel Carrère, que la forme littéraire que vous avez décidé d'adopter, et ce depuis le début, puisque c'est le troisième ouvrage qui paraît ces mois-ci avec ce titre « Non », N-O-M, que écrire, c'est essayer d'élucider qui on est à l'intérieur de soi le plus profondément possible, Constance Debray ?
Pas pour moi. C'est absolument pas la question que je me pose ni dans l'écriture, ni dans ma vie.
Ça part comme ça.
Oui.
Les phrases partent.
Non, enfin, elles partent, je sais pas. Pour moi, l'écriture à la première personne, d'abord, implique une grande distance par rapport à ce jeu qu'on va poser. Parce qu'il me semble que j'essaye de revenir à cette expérience qui est la nôtre, enfin à tous, de l'existence, qui est d'abord ce jeu. Et qu'est-ce que c'est que ce truc ? Voilà, c'est un décor dans lequel se reflète des émotions, des images, des phrases, des pensées, une sorte de narration comme ça, un peu confuse au fil des journées, ou qu'on se fait de soi-même pour essayer de se raconter notre vie. Bon, moi, je crois pas tellement à un soi. Je crois pas tellement à une identité. Et je essaye de poser un jeu, parce que finalement on ne parle qu'à partir de soi. Mais ce soi, c'est pas moi, c'est pas un personnage psychologique. Je crois que le jeu, finalement, est la position qui est souvent prise pour une position d'arrogance, mais pourquoi pas, moi je veux bien assumer, cette arrogance s'il y en a, mais je crois aussi que c'est aussi la position la plus humble qu'on puisse avoir. Parce que finalement, parler pour les autres, c'est pas possible. Et parler des autres, même si on le fait fatalement quand on parle de soi, puisqu'on va parler des gens qui font votre vie, donc qui sont autour, mais finalement on ne peut parler que de son centre, c'est-à-dire de soi. Et donc j'essaye, ce jeu là que je décline au fil des livres, j'essaye aussi d'en faire une proposition d'existence. Je prends dans ma vie, dans mes pensées, à partir de ce que je suis ou de ce que j'ai, des choses qui me traversent, de quoi faire une proposition. Parce que je pense que une des grandes questions qui nous traversent tous, c'est plutôt que qui sommes-nous, c'est que faire de soi. Voilà. Moi, c'est cette question-là qui m'intéresse. Que faire de soi? Et comme moi, je lis des livres aussi comme des modes d'emploi, je ne cesse de me dire, tiens, un livre va
encore
enfin...
Pérec.
Voilà, ben oui. Va répondre à la question que je me pose depuis toujours. Donc du coup, quand j'écris, je me dis, il faut jouer le jeu. Donc moi aussi, je vais essayer de faire une proposition, qui est toujours évidemment relative, puisque ça n'est que de la littérature. C'est de la littérature, donc c'est...
Oui, mais la littérature, c'est la vie.
Oui.
Et la vie, c'est la littérature, et vos livres reflètent ce que vous vivez, les différentes métamorphoses que vous avez effectuées depuis un bon nombre d'années. Combien avez-vous de vie, Constance Debray ?
Ah, j'en ai qu'une. J'en ai qu'une, simplement au fil de ma vie, par certains changements, j'arrive à aller de plus en plus précisément là où j'ai toujours voulu aller, c'est-à-dire vers quelque chose qui me paraît avoir plus de sens. Mais je pense pas qu'il y ait de contradiction dans différents moments de ma vie. Mais effectivement, j'ai toujours beaucoup aimé les récits de conversion. Et il y en a un que j'aime beaucoup, c'est évidemment les Confessions de Saint-Augustin.
Vous en parlez d'ailleurs dans votre livre.
Qui est un texte merveilleux. Et
il y a la vie d'avant et la vie d'après. Chez Augustin, ouais. Mais chez vous aussi.
Oui, d'une certaine
manière. C'est pas Dieu que vous avez rencontré.
Pas encore. Mais
vous allez peut-être devenir mystique.
Certes, il y a une part comme ça chez moi. Oui, ça c'est sûr. Ce qui me menace, c'est la vie monacale, en tout cas, peut-être. Je sais pas. Mais les moments de changement sont très intéressants parce qu'il y a du déport, donc il y a de la rupture et la rupture permet de construire. Donc il y a un effet d'accélération formidable dans ces mouvements là. Mais en réalité, ce sont des ruptures. Par exemple, si on parle du fait que j'ai été hétérosexuel et longtemps marié et qu'ensuite je suis devenue lesbienne, pour moi, c'est pas quelque chose de fondamental. Ça l'a été sur le moment parce que c'est quelque chose d'extrêmement fort et passionnant quand ça vous arrive et surtout quand ça vous arrive tard, je pense.
C'était une décision ou c'était un désir? Parce qu'en vous lisant, on se dit qu'il y a beaucoup d'actes dans votre vie qui sont le fruit de décisions intellectuelles, presque métaphysiques, et qui sont pas forcément l'expression de sentiments, d'exaltation, d'idées de l'amour. Non, c'est une décision.
C'est peut-être ma manière de parler des choses, ça c'est sans doute. Une des choses, je pense, importantes de ma, disons, formation, qui fait peut-être à la fois mon style et mon caractère, c'est mes études de droit. J'ai été absolument passionnée par le droit et je pense que très très marquée par l'écriture du droit français, disons, par le Code civil, quoi. Ces choses-là. Donc ça doit se retrouver dans le côté comme ça parfois lapidaire et normatif de mes phrases, mais c'est aussi que je me méfie toujours des sentiments en littérature. Alors j'essaye qu'ils apparaissent derrière, sans les dire directement.
Mais on peut dire aussi, Constance Debray, que vous êtes à la recherche de votre propre loi et que vous êtes dégagée progressivement des lois sociales, des lois sexuelles, des lois juridiques pour trouver votre propre chemin.
Ah, certainement. Oui, je pense que j'ai toujours senti que, alors ça, je pense très tôt une des choses qu'on doit faire, c'est essayer de penser par soi-même. Bon. On ne fait que tendre à ça et on échoue toujours, mais peut-être qu'on s'améliore. Et penser par soi-même, c'est trouver sa propre loi, oui. Quant à ce qu'on pense, mais aussi quant à ce qu'on fait, et je suis toujours frappée, mais j'ai mis du temps à exercer, disons, ce pouvoir, mais je pense qu'on a un grand pouvoir de se dégager à la fois des pensées toutes faites et des gestes que nous commanderaient les autres ou la société ou quel qu'il soit. Et qu'on ne risque pas grand-chose, finalement, à penser par soi et à agir un peu plus selon soit son désir, je ne sais pas comment dire, le désir ou ce en quoi on croit, tout simplement.
Je voudrais vous faire écouter une archive d'un philosophe que vous avez sans doute lu, qui s'appelait Paul Ricoeur, qui a beaucoup parlé du bien et de la justice. C'est une archivina du 16 septembre 1993.
Nous avons chacun une vision différente, à la limite très personnelle, de ce que nous considérons comme le bonheur, mais même le bien. Nous avons des idées multiples sur le bien. Mais il faut, pour la vie en société, nous mettre d'accord sur des normes communes. Et alors, ce besoin d'universalité qui n'est pas inscrite dans le désir, dans ce qu'il a justement de personnel, alors il faut l'inscrire ailleurs, dans des normes. Alors c'est surtout important pour la justice, parce que le souhait de la justice, être juste dans nos comportements quotidiens, va demander aussi qu'on passe alors par des institutions qui ont des règles, des procédures. Ce seront les tribunaux, ce seront les lois écrites, ce seront des institutions comme la justice, et même des jeux de langage, de la parole réglée par un procès. Le procès, n'est-ce pas, qui est une lutte de parole, par opposé à la lutte violente où l'on frappe, n'est-ce pas? Alors, cette substitution des conflits de parole à des conflits violents, c'est la fonction, justement, de l'interdit et de la norme.
Nous venons d'entendre la voix de Paul Ricoeur et je vois à votre visage que cela vous intéresse énormément, Constance Debray. Et on peut lire, je crois, vos trois livres aussi comme une quête de justice. Je pense que votre travail d'écriture ressemble à une quête morale, à une recherche du bien.
Oui.
Et il y a dans certains de vos livres, je ne sais plus si c'est dans Playboy ou Love Me Tender, des pages entières où vous décrivez admirablement la parole telle qu'elle se déploie dans un tribunal et comment vous portez un type de parole. Est-ce que vous êtes encore impressionné par ce que vous avez traversé dans ce monde juridique que vous avez appris et que vous avez connu avec une certaine passion?
Oui, très certainement. Il y a deux choses. Il y a, d'une part, mes préoccupations personnelles, et je pense qu'effectivement, si beaucoup lu et que j'aime beaucoup, et là j'y reviens beaucoup en ce moment, Dostoïevski, Camus, Peggy, que je suis en train de lire, je trouve incroyable, c'est parce que je suis obsédée par la question du bien et du mal. Bon, donc évidemment que ces questions, et j'adore les moralistes français, enfin. Donc ça, c'est des questions qui me sont propres et qui chez moi préexistent mes études de droit. Bon. Alors les études de droit, ça a été passionnant. Et puis ensuite il y a eu le barreau pénal, donc la défense. Et oui, bien sûr, ça reste très très présent. Il y a une blessure parce que je crois beaucoup, enfin je veux dire le droit, la construction, la lente construction du droit moderne et du droit français, quelque chose de très beau et qui est vraiment de l'ordre de la civilisation, construit sur des principes magnifiques. Bon, et puis il y a la réalité de la justice pénale où on s'aperçoit que ce sont simplement des chiens de berger qui aboient et à l'endroit des brebis qui foutent un peu la pagaille, et que finalement ça n'est qu'une justice de classe. Là je renvoie, parce que j'ai l'impression qu'on en parle quand même moins, et c'est quelque chose qui me scandalise. Je renvoie à toute la littérature des années 70-80 dont on se fout manifestement aujourd'hui. Et alors que les choses se sont aggravées, et donc c'est le bien qu'oppose l'ordre social à ceux qu'elle juge se nourrit, à mon avis, de pas mal de mal. Voilà. Et oui, ça c'est quelque chose que je suis pas prête d'oublier.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Constance Debray, prélude en ré mineur de Carl Friedrich Abel, interprété par Jordi Savall.
effectivement quelque chose qui dirige ma vie d'écriture. C'est que la façon d'écrire, que ce que j'écris, soit partagé le plus possible. Pas seulement pour ceux qui ont une grande culture littéraire. Vous savez, j'ai beaucoup souffert, justement, dans ces années où j'étais folle de littérature, de voir que autour de moi, la plus grande partie des gens ne lisaient pas. C'était comme si j'étais coupée. Ma mère lisait beaucoup, mais elle n'avait, en dehors de Maupassant, de Victor Hugo, elle n'avait pas reçu d'enseignement littéraire. Donc, je suis marquée par cela d'avoir vécu avec des gens qui étaient au-dessous de la littérature. C'est-à-dire qu'ils n'auraient jamais imaginé que leur vie, à eux, puisse être matière littéraire. Je crois que c'est ça qui m'a marqué beaucoup, de faire entrer dans la littérature le monde réel tel que je l'avais connu. Mais tout se fait avant 20 ans. L'univers de l'écriture, oui.
Alors vous, comment vous décririez là, tout de suite, l'univers dans lequel vous avez grandi ?
C'est vraiment difficile, mais je dirais que ce serait le réel sans mots. Des choses très très fortes, mais il n'y a pas de mots. Ou alors les mots qui étaient autour de ce réel, je ne peux pas les employer, puisque c'était un français matiné de patois, c'était un français incorrect, un français écorché. C'est ainsi que disaient mes parents, nous écorchons le français. C'est un réel ressenti, mais non, il n'y a pas de mots. Ou du moins, il n'y a pas les mots du langage légitime, dirais-je. Par réel, j'entends évidemment quelque chose d'assez brutal et contraignant, et le monde de la nécessité, des sentiments violents, des cris, des rires aussi. Des rires. Quelque chose de très puissant, très chaud. Vous voyez, j'utilise plutôt les termes de la sensation pour expliquer cet univers.
Nous avons successivement entendu le prélude en ré mineur de Carl Friedrich Abel, interprété par Jordi Savall, et c'était très beau. Et nous venons d'entendre Annie Ernaux, c'était en 2011, au micro de Rebecca Manzoni, où elle expliquait que finalement elle avait vécu dans un monde où il n'y avait pas les mots à sa disposition. Et vous, j'ai l'impression, Constance Debray, que vous en aviez trop de mots. Que vous étiez saoulée de mots, que votre bonne éducation vous avait peut-être empêché de trouver les mots, et que votre travail d'écriture, qui s'opère en ce moment depuis pas mal d'années maintenant, cherche à dire de la manière la plus simple, et cela vous rapproche d'Annie Ernaux, et la plus accessible possible, ce que vous ressentez au plus profond de vous-même, avec des mots simples, des phrases courtes, et des respirations possibles entre chaque mot.
Oui, ça, encore une fois, je crois à ce qui est simple. C'est encore une fois un truc de juriste. La loi doit être simple. Bon, bah, je pense que la littérature doit l'être aussi, d'abord parce que pour moi, c'est ça la beauté.
Donc c'est un travail, l'écriture, pour essayer de dénuder jusqu'à l'os.
Ça n'est que ça. Moi, je peux pas vivre sans travailler, de toute façon. Mais oui, c'est beaucoup, beaucoup de travail. C'est très facile d'écrire de longues phrases compliquées. Moi, ça, je sais faire, ça, c'est sûr. Mais c'est pas ça pour moi. C'est pas comme ça que je veux attraper le réel. D'abord par goût, donc.
Vous dites réel, comme Annie Ernaux. Ouais.
Mais aussi, et ça je suis très sensible à ce qu'elle dit, cette littérature de la bourgeoisie, qui ne parle qu'à la bourgeoisie, c'est quelque chose d'insupportable. Et on parlait tout à l'heure de ce que j'ai vu dans les tribunaux, les deux sont liés. Les tribunaux, c'est moi je sais, moi je viens de ce monde-là, je sais. Liberté, égalité, fraternité, c'est moi. Les livres, j'ai été nourrie à ça, voilà. Sauf que toutes ces choses-là sont des choses pour un certain monde et qui, en réalité, sont des barrières. Et ça, c'est quelque chose que je trouve totalement, insupportable. Donc, donc dans mon choix, parce que là, oui, c'est une décision d'écrire comme j'écris et d'essayer de parler très simplement de choses qui relèvent de l'expérience de la condition humaine à ma mesure. Il y a aussi la volonté de ne pas m'adresser qu'à ceux qui seraient de mon monde. Je sais pas très bien ce que c'est que mon monde, mais ça c'est quelque chose que je supporte pas. Je crois à l'universalité. Ça me paraît essentiel et je pense que c'est quelque chose qu'on doit auquel on doit penser. Et les livres s'adressent à tous a priori et que ce soit devenu cette chose de la bourgeoisie que la bourgeoisie oppose à ceux qui n'en font pas partie est une trahison de la littérature elle-même. Parce que encore une fois, tous les la littérature, les plus grands livres de la littérature, ceux qui nous font tenir debout, qui nous font comprendre ce que c'est que l'existence, parlent de la singularité, parlent finalement toujours des vaincus. Et que la chose se soit retournée est pour moi une douleur insupportable.
Il y a des choses dont on parle et puis des choses dont on parle pas. Je vais vous citer un court extrait de votre dernier livre, Constance Debray. Qu'est-ce que ça veut dire juif pour eux? Quelle impureté ils y voient? Quelle tâche? C'est comme une homosexualité latente ou un complexe de classe. La pureté, c'est la France. Ils sont contre Israël. De la Shoah, on ne parle jamais. C'est quelque chose qui n'a pas existé. Il y a eu la guerre. Et ça, on en parle beaucoup. Il y a eu les résistants, les collabos, les Allemands et les Alliés. Mais les Juifs, dans tout ça, on n'en parle jamais. Pourquoi ?
Oh, il y a deux choses. Là, je pense qu'il y a la chose que moi qui m'exaspère, c'est et qui est bourgeois de façon caricaturale, qui est de ne pas pouvoir dire les choses. Quel est le problème avec la vérité, avec encore une fois le réel ? Si le réel est là, on peut le dire. Qui serions-nous pour ne pas pouvoir dire le réel ? En quoi le réel nous fait peur? En quoi le fait, en l'occurrence, d'avoir une origine juive est-elle un problème? Voilà, ça c'est quelque chose que, d'une façon générale, qui m'insupporte et qui m'a insupporté très tôt dans ma famille. Mais, et là je vais faire dire le contraire de ce que j'ai écrit, il y a quelque chose que je comprends, je pense, dans leur détachement, en tout cas, à l'égard de leur origine juive, alors qui s'explique pour de mauvaises raisons, mais aussi pour de bonnes raisons, qui est, à mon avis, leur désir d'universalité. C'était des... Voilà, mon grand-père, mon arrière-grand-père, des juifs alsaciens, descendants de rabbins, faisaient partie de ces juifs français...
Assimilés,
on est après Dreyfus, c'est tout ce mouvement-là, les juifs de la Troisième République, qui ont cru... dans cette chose très belle qui était l'universalisme français et qui disait on n'est pas juif, on n'est pas noble, on n'est pas paysan, on n'est pas ouvrier. Alors bien sûr c'est une fiction, mais là, comme on sait, comme vous savez, la fiction crée du réel et ils ont participé à ça. Et donc il y avait quelque chose d'un peu de très beau, qui relevait de la foi à mon avis dans leur oblitération d'origine juive, en fait, aussi. Et puis moi qui dis dans ce livre qu'il faut se détacher de l'origine pour refonder les choses et se refonder soi-même, je ne peux pas leur reprocher d'avoir pris un peu d'écart avec ces choses-là.
Êtes-vous quelqu'un ou êtes-vous personne? Êtes-vous devenu personne?
Ah. J'espère que je suis les deux. Je pense qu'il faut être les deux. Il y a un endroit où on n'est personne, où on est ce vide absolu. Là, c'est la pureté. C'est là que tout se reflète. Mais il faut aussi, il faut bouger. C'est comme à vélo, sinon on tombe. Donc je suis aussi quelqu'un.
Mais c'est bizarre que vous parliez du vélo. Moi, je croyais que vous alliez me parler de la brasse coulée ou de la brasse papillon.
Alors là, c'est personne. Là, c'est personne. Le moment de la nage, c'est le moment où on n'est personne. C'est le vide et le flottement et la pesanteur.
Vous avez été à la piscine aujourd'hui?
Oui, oui.
Alors, c'était bien?
C'était très bien. Ouais, c'était très bien. C'était. Et alors, comme je suis allée tôt, donc j'étais encore un peu endormie, et donc il y avait cette espèce de double flottement. C'est très, très agréable, oui.
Pauvre petite fille riche, on pourrait vous dire ça, Constance?
Mais bien sûr, je prends tout. Y compris ça, même si je suis pas très riche, mais je le serai toujours culturellement. Eh ben, on fera avec, et on fera le mieux possible avec ça.
Comme de nombreuses personnes, je suis un peu addict à votre écriture, donc je connais des pans de votre vie. Je voulais vous demander des nouvelles de votre fils.
Il va bien.
Vous le voyez?
Oui.
Bah, tout va bien, alors.
Je crois et j'espère.
Je vais vous citer encore. Avec n'importe quel parent, j'aurais écrit le même livre. Avec n'importe quelle enfance, avec n'importe quel nom, je raconterai toujours la même chose, qu'il faut se barrer de n'importe où et de n'importe comment, se barrer, aller de plus en plus loin, géographiquement ou sans bouger, être de plus en plus seul, aller vers la solitude. En fait, quand vous rencontrez des filles, vous êtes toute seule. C'est elles qui essayent d'être avec vous.
Ça, je sais pas. Je sais pas ce qui se passe dans l'amour. Non, mais je me pose pas la question de ma solitude quand j'aime. Je me pose la question de l'autre.
Mais est-ce que vous aimez?
J'espère, oui. Oui, j'espère. C'est quand même. Irrésistible d'aimer. Je lisais. Je sais pas, hier, je crois, j'ai ouvert Bernanos qui suivait le procès Pétain et il se posait la question de l'enfer et il disait l'enfer, c'est. L'enfer, c'est quand on n'aime pas.
L'enfer, c'est les autres aussi.
Aussi, oui, c'est pareil. Oui, non, mais j'aime bien la solitude.
L'enfer, ça peut être vous aussi, hein.
Ah oui, ça aussi.
Le dialogue avec vous-même.
Oui, non, mais c'est
après
ça.
La piscine, les heures sont longues pour travailler sur l'ordinateur.
Oui, mais ça me dérange pas. Mais il faut quand même un peu d'altérité, effectivement, sinon ça sèche. Mais
votre livre, Constance Debray, s'appelle Non, avec un M. Mais vous auriez pu ne pas le signer du tout.
Ah, il faut toujours signer.
Bah non.
Si.
Bah, vous passez votre temps à écrire que vous essayez de vous débarrasser comme d'une gangue de votre propre appartenance sociale, politique, familiale, sexuelle. Au fond, vous pourriez ne pas avoir de nom.
Non, je crois pas. Je crois que ce qui est important, c'est pas de disparaître. C'est d'essayer de mettre, y compris son origine sociale, et quelle qu'elle soit, moi c'est vraiment quelle qu'elle soit, à distance. C'est pas dire qu'elle n'existe pas ou qu'elle n'a pas existé. C'est ne pas être dupe de ces choses-là. Je suis comme tout le monde, faite de ces choses-là aussi. Mais il y a une part de. Oui, je crois à la volonté, à l'intelligence, et on peut aussi se déplacer et se replacer. Ça me paraît essentiel. je suis, j'ai un nom et je pense que c'est important. Moi, et c'est aussi pour ça quand j'écris à la première personne et de façon très directe et que je parle de choses très banales de ma vie comme la piscine, etc.
J'aime mais c'est pas banal.
Bon,
la piscine.
Enfin, mais j'aime cette idée de que le corps de l'auteur soit dans les pages du livre et d'être la littérature offre une liberté inouïe. Et j'irais presque un pouvoir. Tout ce qu'on peut mettre sur une page et qui va être lu, c'est quelque chose d'incroyable. Mais la liberté va avec la responsabilité. Et donc il faut, à un moment, mettre son corps sur la table et son nom, parce que c'est les deux choses. Et que le nom soit pas que le mien, voilà.
Merci infiniment, Constance Debray. Je vais terminer par une très courte lecture d'un des derniers paragraphes de votre nouveau livre. J'aurais pu aller voir un psy 2 fois par semaine, j'aurais pu lui demander de m'aider à me faire vouloir tout ce dont je ne veux pas, j'aurais pu lui demander de me guérir, je vis sans propriété, sans famille, sans enfance. Merci beaucoup.
Merci.
C'est avec Charlotte Adigéry et Boris Pupul que nous allons nous quitter ce soir. Merci Constance Debray. Je rappelle que votre livre, le dernier qui vient de sortir, s'intitule « Non ». et qu'il est publié aux éditions Flammarion. Merci à Félix Delacour qui était à la régie technique ce soir. Merci à Céline Villegas, Élodie Royer, Marie Clément, Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux et bien sûr Lilian Allôme qui a réalisé cette émission.